France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Chaque fois qu'on fait un sujet au téléphone sonne ayant de près ou de loin affaire aux crypto-monnaies, je me fais engueuler par les pro-crypto dès qu'on parle de risque de blanchiment, dès qu'on s'interroge sur la fiabilité, sur le risque trop grand, et par les anti-crypto, ce nouvel outil affreusement spéculatif et énergivore. Eh bien écoutez, ce soir, donnez-vous-en à cœur joie, entrez dans la conversation. Nous avons intitulé cette émission « Tous accros aux crypto » parce que galvanisé par Donald Trump, voilà le Bitcoin surtout, et les autres aussi d'ailleurs, devenu tête de gondole des souhaits d'investissement. Le public intéressé ou conquis est de plus en plus large, c'est une réalité. Il y a, et c'est le cas de la France comme partout d'ailleurs, une vague de nouveaux utilisateurs parce que ça monte de plus en plus haut. Le Bitcoin est passé au-dessus des 100 000 euros, quoi de plus normal de regarder ça de près. Mais justement, ce qui nous intéresse, c'est qui regarde ça de près. Si c'est vous, on vous attend. Est-ce que vous vous lancez? Est-ce que vous diversifiez votre portefeuille si vous en avez un? Est-ce que vous savez choisir la bonne plateforme? Est-ce que c'est le début d'une ère nouvelle qui ira jusqu'à la suggestion de Trump? Souvenez-vous, une réserve nationale de Bitcoin, ou est-ce qu'on marche au bord d'une bulle qui peut éclater à n'importe quel moment? Nouveaux utilisateurs, primo-investisseurs, ceux-là sont ceux qui veulent faire de l'argent vite, impressionnés par la montée en flèche du Bitcoin notamment. Est-ce que c'est bien raisonnable? Qu'est-ce que c'est que ces mêmes coins? Est-ce qu'il faut partir en courant dans l'autre sens, cette espèce de crypto Trump notamment lancé après l'investiture? Est-ce que tout ça c'est du vent? Comment naviguer dans ce monde autrefois réservé à quelques initiés dans lequel voudraient entrer maintenant de plus en plus de lambda comme vous et moi? Eh bien c'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Guillaume, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Guillaume.
Je vous remercie pour toutes les émissions que vous faites. Donc, j'appelle pour faire un petit témoignage. Parce que moi, j'ai investi dans les cryptos il y a presque 3 ans, juste avant le gros l'effondrement qu'il y a eu. Et l'arrivée de Trump m'a encouragé à remettre de l'argent dans différentes cryptos, que ce soit le Bitcoin ou le BNB. Donc, voilà.
Et comment vous le sentez, vous? C'est-à-dire, est-ce que vous vous dites... Parce que moi, j'ai lu des choses totalement tout et son contraire, Guillaume. J'ai lu que dans 10 ans, le Bitcoin pourrait atteindre 700 000 ou 800 000 euros, voilà. J'ai aussi lu que ça se sera de toute façon, d'ici là, totalement cassé la figure. Comment vous naviguez, vous, là-dedans, en fait? Comment on se renseigne là-dedans? Comment on évite les écueils?
Ben moi, alors, je crois au Bitcoin pour qu'il va tripler, voire quadrupler, mais je mets que de l'argent que je suis prêt à perdre dedans. Et après, je navigue, j'achète que des cryptos qu'on connaît, qui ont des projets qui tiennent la route, et je n'achète pas du tout de même coin. Hein. Je n'ai pas acheté de Trump, qui a fait la crypto-monnaie qu'il a lancé.
Ni de Melania, donc. Donc ça veut dire, vous dites c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça veut dire que, c'est un peu un claquement de doigts, quoi, quand je vous entends, Guillaume, non?
Bah, moi, j'espère faire un retour sur investissement un petit peu à long terme, pas à court terme.
Mmh. Et sinon, à part les
Bitcoins... Je ne prends pas récupérer mon argent si ça se...
Si ça se passe mal. Et juste une question, après je vous laisse, c'est promis, puis je vais vous présenter surtout nos invités. Vous avez un portefeuille ou pas du tout?
J'en ai deux.
D'accord.
J'en ai un sur Binance et un sur crypto.com.
Non, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas autre chose que du Bitcoin, en fait.
J'ai aussi du BNB.
Ah, d'accord, ça y est.
Là, j'ai plein de cryptos différentes.
Ça marche. Merci beaucoup, Guillaume. Merci de cette entrée en matière qui va lancer notre débat autour de cette table pour en discuter. Il y a Anastasia Djadji, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes chroniqueuse. Vous avez écrit notamment « Nos cryptos, comment le Bitcoin a envoûté la planète ». C'était aux éditions Divergence en 2023. Il y a aussi Raphaël Bloch, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cofondateur du média de Big Whale, spécialisé justement dans les cryptos. C'est à vous que je vais poser la question d'abord, Raphaël Bloch. Est-ce qu'on le met sous verre, Guillaume, c'est-à-dire c'est devenu l'appartement témoin du nouvel investisseur Bitcoin ou pas?
Alors non, parce qu'en fait on observe quand même une grosse diversité dans ces investisseurs. Après, ce que je trouve intéressant dans son témoignage, c'est deux choses. La première, c'est finalement quand il parle effectivement d'argent qu'il est prêt à perdre. En fait, c'est surtout lié à la structure de ces marchés. C'est-à-dire que vu que vous avez des hausses et des baisses, ça n'a effectivement pas de sens de vous dire que vous allez investir sur quelques jours ou quelques semaines. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a précisé à la fin que c'était plutôt du long terme. Et qu'effectivement, il prenait soin de regarder un peu quels étaient les projets sur lesquels il y avait des fondamentaux. fondamentaux. Et la deuxième chose, c'est que vous avez finalement une population qui s'interroge de plus en plus sur l'avenir en fait, de la monnaie. C'est le cas de l'euro, mais c'est le cas dans d'autres pays. Et qui se dit, OK, on a peut-être là une alternative. Et c'est pour ça qu'il parlait de Bitcoin quand il imagine un x3, x4. C'est lié à quelque chose tout simple qui est qu'en fait, par exemple, le Bitcoin est en quantité limitée structurellement.
On va y venir là-dessus.
Plus de 21 millions. Et donc, il se dit, voilà, dans un univers où il y a de l'inflation et la valeur des monnaies a tendance à baisser, eh bien, je vais d'un côté investir dans des projets particuliers, le BNB, et de l'autre côté, je vais mettre de l'argent dans le Bitcoin pour protéger mon épargne.
Parce que moi, ce que je me dis quand je vois les nouveaux investisseurs, et qu'effectivement, alors qui peut les blâmer, ça a commencé, enfin, il y a encore combien quelques semaines, on était autour de 60 000 euros. La montée a été fulgurante. Donc, j'ai l'impression de voir aussi beaucoup de gens qui disent on peut faire de l'argent, en fait. Et la question que je me pose, Raphaël Bloch, c'est si c'est en fait la dernière chose à se dire, on peut faire de l'argent, en gros, comme si on pouvait gagner le jackpot ou pas, en fait.
Oui, tout à fait. Mais c'est là
on a un peu l'impression qu'on joue au bandit manchot.
Non, mais totalement. Et je pense que là-dessus, on a par itération successive, parce qu'en fait, il y a eu d'autres périodes. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces sujets en 2016. Donc, en 2017, on a déjà vécu une forte période de hausse. On était passé de 1 000 à 20 000 dollars. On avait observé effectivement des comportements assez erratiques avec des gens qui se disaient, bah voilà, c'est monté de 1 000 à 5 000, et puis après 10 000, peut-être que j'y aille. Et puis une fois que ça repartait dans l'autre sens, bah vous aviez en fait les derniers qui avaient perdu de l'argent. Et puis on a connu ça également en 2021. Et là, effectivement, avec la hausse, eh bien, on sait qu'il va y avoir une période de reflux. Mais le plus important, encore une fois, j'ai remis son témoignage, c'est de voir à long terme. On observe la même chose sur les marchés financiers. Vous prenez les graphes du CAC 40, du Nasdaq aux États-Unis. Vous avez aussi une progression successive, mais simplement, les arbres ne montent pas au ciel, donc il y a une limite. Et deuxième chose, c'est que ça ne monte pas de manière linéaire. Vous avez effectivement des accidents parce que c'est corrélé à l'économie. Quand vous avez un nouveau président plus pro-business qui arrive, c'est un impact positif. Et à l'inverse, vous avez aussi tension géopolitique, les marchés qui peuvent baisser.
Est-ce qu'on sait, Nastassia Hadjadji, si les fous de la tech, si les gros de la tech investissent vraiment dans le Bitcoin, dans la Silicon Valley, en fait.
Absolument, ils en font une publicité régulière et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le prix de cet actif en particulier a fortement explosé. En particulier, si on prend la période récente sur l'année 2024, il y a eu une énorme traction liée à cette campagne électorale. Moi, je l'explique de plusieurs raisons. Donald Trump lui-même a opportunément voulu cibler cette population, mais plus que la population des détenteurs, parce que ça reste encore une fraction marginale. Moi, je le redis, cette idée que la base des investisseurs grossit, elle est à prendre avec des pincettes. Le gouverneur de la Banque de France dit que c'était entre 3 et 12%. 12% de la population en France, je veux dire. 12%, c'est la fourchette haute. Donc vraiment, il n'y a pas d'estimation qui soit véritablement consolidée. Donc c'est un sentiment de dire qu'il y a de plus en plus de personnes intéressées. C'est un sentiment qui est aussi corrélé au battage médiatique autour de cette industrie. Et pour reboucler sur là où j'en venais, la campagne électorale a donné un appel d'air sans précédent à cette industrie qui s'est constituée comme un lobby, une entité d'influence politique et de manière transactionnelle avec Donald Trump qui lui a également donné une traction. Et on pourra revenir sur les raisons pour lesquelles cette industrie veut désormais assumer une influence politique.
On viendra effectivement sur les raisons, puisqu'il nous intéresse aussi, c'est le plafond, en fait, pour que les gens comprennent vraiment de quoi on parle. Moi, je voudrais vous soumettre cette remarque de Jean-Phi sur WhatsApp, et qui dit ceci. « Depuis un an, j'ai décidé, au lieu de jouer 15 euros par semaine à l'euro million, de dépenser la même somme en altcoin. Et aujourd'hui, j'ai plus que doublé mon investissement, presque triplé, en achetant lorsque ça baisse et en vendant à la hausse. C'est amusant, et je convertis mes gains en stablecoins au fil de l'eau. » Et je ne sais pas si l'un à l'autre, Nastassia Hadjadji d'abord et puis Raphaël Bloch après, quand on lit ce que nous dit Jean-Phi, est-ce qu'on a envie de dire « waouh » ou est-ce qu'on a envie de dire « au secours » ?
Personnellement, et c'est là que j'assume une parole située, je considère ce que nous dit Jean-Phi, ça relève de l'économie du casino. C'est parier, c'est vouloir spéculer. Et il n'y a rien de mauvais intrinsèquement dans faire ce geste. Mais moi, ce que j'essaie de voir, c'est le contexte économique et politique qui pousse les gens à vouloir prendre des risques économiques. Ce contexte, sur le plan économique, c'est c'est l'explosion des inégalités de richesse, c'est la paupérisation d'une grande partie de la population, c'est une inquiétude légitime face à un possible déclassement. Sur le plan politique, c'est un contexte de poussée néo-réactionnaire extrême, avec une forme d'oligarchie de la tech en voie de radicalisation vers l'extrême droite qui prend les rênes du pouvoir. Donc c'est un contexte de vulnérabilité économique et politique. Et dans ce contexte de vulnérabilité, sur lequel il faut quand même s'arrêter un instant, les cryptos, cette industrie, propose des outils qui sont en eux-mêmes des outils un peu de sécession douce. C'est de dire, sortez votre argent des banques, mettez-le sur ces porte-monnaies numériques. C'est de dire, conservez vous-même vos actifs, sortez des filets collectifs, des filets de sécurité. Donc c'est vraiment cette idée d'individualisme comme ultime recours, cumulé à cet effet de gamification que mentionnait Jean-Fille, à savoir, je prends ça, je le transforme en ça, je double mes gains, c'est un peu le casino, c'est gamifié, c'est la dopamine. Moi, personnellement, je trouve que c'est d'une part fractionner un peu les tissus collectifs et les filets de sécurité qui vont avec, et c'est aussi ouvrir la voie à une économie de plus en plus casino.
Je vais vous donner la parole, Raphaël Bloch, là-dessus précisément. Je voudrais qu'on écoute Michel, qui est un peu sur la même ligne et qui est à Lyon. Bonsoir Michel.
Bonsoir Fabienne.
On vous écoute.
Bonsoir à vos invités. Écoutez, je suis un petit peu effaré d'une telle évolution, c'est-à-dire que les gens, et notamment les spécialistes, n'ont pas de mémoire. Lehman Brothers, la crise des subprimes, qui a entraîné une crise mondiale, eh bien, on va, à mon avis, tout droit vers ce genre de scénario. Et ma question est très simple. Pourquoi les autorités françaises et européennes autorisent une telle démarche? N'oublions pas qu'après la crise financière, les entreprises bancaires et d'assurance, on leur a imposé des contrôles drastiques venant des États-Unis, alors que les États-Unis ne les appliquent pas. On va tout droit vers ce genre de bulle prête à exploser.
Merci voilà, pour votre remarque, Michel. Raphaël Bloch, on va tout droit vers la bulle. À la fois ce que nous dit Michel, mais en se souvenant de la question non, de la remarque de Jean-Fille tout à l'heure sur WhatsApp, qui était de dire « je joue ». En fait, est-ce que quand on s'y connaît, quand on est dedans, on se dit c'est précisément ça qui peut nous emmener dans le mur en fait, ou vive Jean-Fille, vive ce genre de manière de faire?
Ouais, totalement. Alors bon, Anastasia a abordé beaucoup de sujets, mais je pense qu'effectivement, pour rebondir sur la question du casino, évidemment que dans un marché où vous pouvez, librement rentrer, vous allez avoir des comportements totalement irrationnels. Et là-dessus, je vous rejoins totalement sur le battage médiatique, mais là-dessus, nous, par exemple, on n'est pas responsable. Je veux dire, nous, on écrit justement précisément sur tout ce qui concerne la technologie, et en fait, nous, on fait ce travail de suivi de ces sujets au quotidien. Donc, on n'est pas en train de parler des prix, et nous, on n'incite pas du tout les gens à regarder les prix. Nous, on parle de la tech, des projets qui se développent. D'ailleurs, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est finalement sur Lehman Brothers. Moi, il s'avère que je pense qu'on ne travaillait pas encore à l'époque où il y a eu la crise, on est arrivé un peu après sur le marché du travail, mais on se souvient très bien de cette crise. Et en l'occurrence, nous, ce qu'on aime bien rappeler, c'est que c'est précisément parce qu'on était dans un univers qui était centralisé, opaque, donc c'est-à-dire tout l'inverse de ce qu'on a aujourd'hui. Moi, je peux, si vous voulez, on fera l'exercice après. On peut utiliser une blockchain, on prend les wallets, tout est disponible. Donc c'est précisément ça.
Vous avez déjà perdu le nombre de personnes que vous avez perdu prenant les wallets, utilisant la blockchain.
Ce que je veux dire, c'est que typiquement Goldman Sachs, enfin ce qui s'est passé à l'époque avec Lehman Brothers, c'est que vous aviez en fait des produits qu'on mélangeait entre eux et on ne connaissait pas la qualité de ces prêts hypothécaires. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire ça avec une blockchain. C'est-à-dire que si on avait des produits qui étaient mélangés entre eux, on le verrait. On verrait tout de suite qu'il y a des trous à un moment donné dans le système. Et donc, on éviterait ce genre de scandale. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Mais en tout cas, on est capable, par construction, d'éviter qu'il y ait des déséquilibres financiers monumentaux. La preuve en est qu'aujourd'hui, on a un marché crypto qui fait un peu plus de 3 000 milliards de dollars et qu'on n'a jamais eu d'équivalent. Et les scandales qu'on a eus comme SBF, la plateforme FTX, ça n'avait rien à voir avec l'activité intrinsèque des cryptos, c'était simplement un maquillage des comptes.
Non, ça n'a rien à voir, mais ça a quand même emporté une partie des banques de la Silicon Valley. Enfin, je veux dire, ça a emporté derrière soi beaucoup de choses, et puis lui, il est en taule pour 25 ans. Enfin, je veux dire,
Mais évidemment, mais simplement, c'était, ça ne concernait pas la crypto dans le sens où il y avait simplement quelqu'un qui prenait l'argent des clients et qui derrière allaient les dépenser autrement, mais ça n'était pas sur la blockchain.
Non, mais on est d'accord, mais ça veut dire qu'il y avait moyen aussi de contrevenir. Enfin, je veux dire, vous parlez d'une vraie transparence. Enfin, moi, je ne veux pas dire que d'un côté, il y a la pire des opacités, et de l'autre côté, c'est super chouette. Tout ça est bien plus nuancé. Mais
FTX fonctionnait exactement comme une banque.
Ben voilà.
Voilà. Oui, mais c'est justement ça.
Dérégulé. À ceci près qu'FTX était au Bahamas, avec de multiples filiales partout dans le monde, et qu'elle prospérait, et que ses activités illicites, elle les menait vraiment dans les angles morts de la régulation. Ouais. Ce qui me permet, pour revenir à la question du témoignage, de rappeler qu'aujourd'hui, vous avez des milliers de Français, il y a un groupe Telegram d'ailleurs, qui rassemble les perdants de FTX en France, qui se battent encore pour récupérer une fraction du capital qu'ils ne récupéreront pas.
Tous les anciens clients d'FTX seront remboursés.
Ils ne savent pas à quel horizon. J'étais encore sur le groupe Telegram tout à l'heure. Ils sont en train de se poser des questions.
Non. Il y a juste une question, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le dossier américain, puis il y a le dossier européen, mais pour suivre le sujet...
Évidemment, toutes ces sociétés ont de multiples filiales.
C'est juste une question de droit.
La plus grande plateforme d'échange de crypto Binance fait l'objet en France d'une enquête judiciaire, est attaquée pour justement dissimulation d'informations, parce qu'il y a des investisseurs qui ont été floués, et je pense que c'était ceux qui avaient aussi moyens aussi de se constituer en action collective contre cette plateforme. C'est pas forcément l'investisseur lambda qui a du mal à boucler ses fins de mois et qui va jouer au casino, en fait.
Ouais. Alors, voilà. Là-dessus, on est d'accord ?
Et juste, moi, j'aimerais rebondir sur le témoignage de monsieur qui mentionne la crise financière de 2008. Il a absolument raison. Et l'ironie, je trouve, moi, de l'histoire, c'est qu'à l'époque de 2008, donc post Lehman Brothers, la crypto se présente comme l'industrie dissidente. Celle qui se positionne contre cette finance rapace, opaque, et aussi, déjà très très fort à l'époque, contre les gouvernements complices.
C'est Bitcoin.
C'était la rhétorique du bail-out, du renflouement par les gouvernements de la finance rapace.
Mais Bitcoin reste aux yeux du grand public, la référence de la crypto-monnaie.
Mais ça reste la référence. Il y en a d'autres. Oui, mais c'est précisément parce qu'on commet ce genre d'amalgame. C'est-à-dire que vous avez d'un côté Bitcoin.
J'aimerais dire que 16 ans plus tard, donc aujourd'hui, l'industrie des cryptos, précisément, s'enorgueillit de son introduction et de son, de son avalement, en tout cas, par la finance traditionnelle. Aujourd'hui, que nous disent les défenseurs de la crypto dans le grand public ? Regardez, il y a BlackRock, les grands hedge funds qui y sont allés. Regardez, nous sommes légitimes, institutionnalisés. Donc déjà, il y a une volte-face totale en termes de positionnement de discours, d'une part. Et ensuite, que disent les promoteurs de cette industrie ? Allez-y, c'est aussi sûr que le livret A. Non, mais on croit rêver.
Qui dit ça ?
Bah, votre collègue hier sur 28 minutes qui sous-entend qu'en fait c'est un investissement sûr.
28 minutes c'est sur Arte, si on pouvait juste sortir de votre petite querelle à vous, ce serait bien pour que les gens puissent aussi suivre cette conversation. Et pour ça d'ailleurs nous avons Cassandra. Bonsoir Cassandra.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors moi je voulais raconter une petite anecdote assez marrante parce qu'elle ne nous a pas coûté financièrement, mais voilà, mon conjoint quand il avait 18 ans, donc il y a une paire d'années maintenant, a acheté 8 bitcoins, sauf que le temps passant, il les a gardés quelques mois et il les a revendus peu ou prou de peur à 800 euros. Voilà, aujourd'hui on en reparle souvent.
Voilà, et si vous êtes resté avec lui, ça c'est de l'amour. Merci beaucoup Cassandra. Moi il y a une chose justement qui m'intrigue terriblement. Imaginons Cassandra et son compagnon qui ont effectivement acheté des bitcoins pour une bouchée de pain il y a quelques années, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Aujourd'hui, il en a 8, ça vaut 100 000 euros. Mais qui lui paye les 800 000 en fait ? S'il décide de les cacher, il veut un appart.
Les suivants.
Qui lui paye les 800 000 euros ? Et pardon, mais ça pour le coup c'est comme ça que ça marche dans toutes les banques. Si Cassandra et son ami demandent leurs 800 000, mais que Jacques et Jean demandent aussi leurs 800 000, etc., on va se retrouver dans une situation qui est exactement la même que lors des crises comme ça sur les banques basiques. Mais moi, je n'ai pas compris qui lui donne les 800 000.
Ah mais c'est que là, on ne fait que découvrir ce qui s'appelle des flux financiers. Les retraites, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est simplement sur des équilibres. C'est-à-dire que vous avez...
Ouais, mais je voudrais quand même la réponse à ma question. Je veux mes 800 000 euros pour acheter un appart, par exemple.
Et bah vous les récupérez.
J'ai pas compris qui me les payait.
C'est pas garanti.
C'est sur le réseau. C'est-à-dire que sur le réseau, en fait, vous avez... en l'occurrence, par exemple, sur Bitcoin, là, vous avez plus de 1000 milliards de dollars. Et en fait, à partir du moment où vous voulez vendre, eh bien, vous récupérez votre argent et les bitcoins sont remis en circulation via justement les plateformes.
Si tout le monde récupère son argent en même temps, ses bitcoins en même temps, est-ce que plateforme a les reins assez solides ou pas ?
Ah mais c'est exactement la même question pour les banques, pour n'importe quelle. C'est-à-dire qu'évidemment, si tout le monde décide de récupérer au même moment, vous avez un crash automatique. Mais ça, je veux dire, c'est parce qu'en fait, vous repartez à la situation ante zéro. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien parce que tout le monde a repris ses billes. Mais là-dessus... Je suis pas sûr que poser la question en ces termes permette d'apporter une réponse. Que finalement, encore une fois, ça se pose pour toutes les questions.
Ouais, pardon, je suis désolée, je n'ai pas intégralement compris.
Bah, ce que je veux dire, c'est que...
Je comprends évidemment ce que vous me dites, mais ma question, c'est...
C'est un peu comme si Facebook, si vous me dites, bah, si tout le monde décide de fermer son compte.
Mais je ne sais pas qui va me les acheter à ce prix-là, en fait, les bitcoins.
Bah, voyez, des gens en face, des gens qui en veulent. Il y a plein de gens qui en veulent.
Mais qui vont vraiment vouloir des bitcoins à 100 000 euros.
Mais évidemment, mais tous les jours, vous avez des gens qui en achètent même à 105, 110. Il y a même des gens qui en achètent à 150 sur du marché en fait, futur, parce que justement, ils anticipent que le bitcoin va être à un prix encore plus élevé dans un an. Donc, en fait, ils vont pouvoir les récupérer dans 6 mois à 150, valoriser à 200 dans un an. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet.
Mais c'était encore, déjà dit, je vous voyais réagir.
On en revient à ce que disent les régulateurs aujourd'hui. Ces plateformes, ces fameuses plateformes d'échange sont extrêmement opaques et ne font pas la garantie des preuves de liquidité.
Mais ça ne passe pas que par les exchanges.
D'accord, mais est-ce que tu es sûr à un moment zéro que ta plateforme a suffisamment de liquidités, si ne serait-ce que X personnes veulent les fonds?
Ça ne passe pas que par les plateformes.
Comment, du coup, d'où vient cet argent?
J'ai pas compris, ça vient pas par les plateformes.
C'est un réseau. Non, mais c'est un réseau, c'est-à-dire que Bitcoin, c'est un réseau. Donc, si vous voulez, vous pouvez d'un côté accéder via les plateformes pour récupérer du Bitcoin, mais vous pouvez aussi très bien en acheter directement à quelqu'un d'autre.
Voilà. Auquel cas l'idée de valeur perd de son sens, puisque si j'en achète directement à quelqu'un, il faut qu'on convienne tous les deux, qu'on s'accorde sur la bonne valeur.
Ben
et
oui.
C'est précisément à ça que servent les institutions centralisatrices dans une économie.
Il faut vous mettre d'accord sur un prix.
À être le tiers de confiance qui fixe la valeur et pour dire oui, un vaut bien un.
Oui.
Bitcoin, en fait, et on en revient à un des points centraux de la critique de cette économie, c'est qu'elle n'en est pas une en réalité, puisque lorsque vous achetez par exemple un titre financier ou une action, vous achetez une fraction de la performance d'une entreprise, son capital, voire même de sa dette. Vous détenez
du capital, plus effectivement les revenus futurs.
Ça vous donne accès potentiellement à des dividendes et à des revenus. Lorsque vous achetez un bitcoin, vous achetez simplement une convention sur un prix, et c'est-à-dire la possibilité de le revendre à ce prix ou plus cher. Il n'y a rien d'autre sur lesquels s'appuyer pour évaluer cela. Et c'est la raison pour laquelle, beaucoup
vous
de gens dont je fais
partie transactions en bitcoin
considèrent, mais c'est fictif.
Mais non, mais en fait, c'est parce que je pense que vous ne voyez même pas forcément de quoi vous parlez. Enfin, vous avez déjà fait des transactions, vous voyez un peu comment ça fonctionne?
J'ai déjà reçu des cryptos, oui, et je n'ai jamais rien acheté avec, en effet.
D'accord, mais donc comment dire alors que finalement, le prix ne se fixe pas? Enfin, je peux très bien envoyer du bitcoin à quelqu'un d'autre. La valeur se conserve, enfin, je ne suis pas obligé de passer par Binance pour transférer du bitcoin à quelqu'un.
Attention, vous êtes en train de jargonner, excusez-moi, mais vous êtes en train de perdre tous nos auditeurs.
Oui, parce qu'on essaie de complexifier.
Ce que je veux dire aussi, c'est qu'en fait, les gens qui entrent sur ce marché, les derniers, sont les appâts à liquidité pour ceux qui veulent en sortir. Si à un moment, moi, j'ai envie de récupérer des actifs, je dois compter sur un afflux constant de nouveaux entrants.
Vous êtes en train de me décrire une pyramide de Ponzi.
Absolument.
En fait.
Oui. Mais
bah oui, vous avez dit oui.
Mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, on feint de découvrir l'économie. C'est exactement comme, par exemple, encore une fois, les retraites, c'est une pyramide de Ponzi. Si vous n'avez plus assez d'actifs, le système s'effondre. Est-ce que pour autant, on va renoncer au système par répartition?
Mais attendez, on n'est pas sur le même registre.
Mais si, précisément, on est sur le même registre.
Moi, je souscris au système par répartition,
parce que je pense que c'est un mécanisme de solidarité. C'est une pyramide de Ponzi, et vous êtes obligé d'avoir de plus en plus d'actifs pour financer la retraite de ceux qui sont à la retraite. Donc,
d'autre avec des bitcoins que soit les conserver dans l'espoir hypothétique qu'ils vaillent plus cher le lendemain et que je puisse les revendre à mon voisin.
Non, je suis allé en Amérique du Sud, je suis allé en Asie. Enfin, je veux dire, évidemment que ça sert. Les gens n'ont pas accès à des comptes bancaires. Ça permet de faire des paiements. D'un point de vue, je prends un exemple tout bête.
Allez-y.
Aujourd'hui, on utilise une carte bancaire. Quand vous payez avec votre carte bancaire, vous utilisez les réseaux Visa, Mastercard. À chaque fois, vous payez de l'argent. Comme quand une banque stocke votre argent, vous payez à l'année des frais. Ce que permet Bitcoin, c'est de faire exactement la même chose sans ces frais. Donc c'est pour ça que c'est toujours étonnant de voir.
Mais sauf qu'on ne paye rien avec le Bitcoin, honnêtement. C'était le rêve de départ.
Mais je vous assure que je reviens, je suis revenu ce matin d'Asie. Je veux dire, vous avez des pays où il y a 20% d'adoption des crypto-monnaies parce que précisément, les gens, par exemple, le baht thaïlandais ne cesse de perdre de la valeur. C'est pareil pour le peso, même si Milei essaye de changer les choses. Enfin, aujourd'hui, vous avez très peu de pays où la monnaie est stable et vous avez en revanche un nombre incroyable de pays où la monnaie ne cesse de s'effondrer.
On est quand même d'accord pour dire, Raphaël Bloch, que l'idée de départ de la crypto-monnaie qui était, née, on sait pour ce qui est du bitcoin, par un personnage dont on ne sait pas exactement qui c'est, etc. L'idée de départ, c'était une autre manière de s'échanger non pas de l'argent, mais de s'échanger des choses, enfin d'acheter des choses. On nous a tous raconté à une période, et y compris ici, dans cette émission qu'un jour on achèterait notre baguette avec un bitcoin. On est d'accord quand même que très majoritairement c'est devenu un outil spéculatif quand même.
Bah
on
ne
peut pas s'entendre là-dessus.
Encore une fois, on peut pas s'entendre là-dessus dans la mesure où effectivement, vu de Paris, oui, c'est sûr que quand on va juste regarder des gens qui espèrent voir le bitcoin à la hausse ou à la baisse, oui, ça c'est de la spéculation, mais
c'est exactement ce qui se passe.
Enfin,
moi j'ai absolument rien contre, que j'en ai ou que j'en ai pas, mais de fait, enfin, notre ami auditeur tout à l'heure qui jouait avec, avec ses bitcoins, il faisait pas ça pour acheter, pour aller faire ses courses à Intermarché.
Mais c'est précisément ce qu'il vous disait, c'est que, et c'est là-dessus qu'on a commencé, c'est que vous avez tendanciellement, avec l'inflation et la baisse de la valeur des monnaies, des gens qui ont bien compris qu'en fait, votre patrimoine ne cesse de se déprécier. Donc c'est pas spéculatif, c'est que simplement, ils ont bien compris qu'à 10 ans, et c'est d'ailleurs, on a ce débat tous les ans, et à chaque fois, on voit chaque année, en fait, le bitcoin a cessé de s'apprécier parce que justement, les gens ont compris la valeur qu'il y avait à la fois dans le fait de conserver du bitcoin sur le long terme parce que ça protège de l'inflation. Et en plus, ça permet de faire des choses. Encore une fois, si vous faites, par exemple, un paiement transfrontalier, si vous voulez virer de l'argent en Suisse, voilà, vous voulez virer de l'argent en Suisse.
Bonne idée.
Non mais attendez. Non mais en Allemagne. Non mais là où
vous... Au Luxembourg.
Non mais là où vous voulez.
Je vous en prie, je vous écoute,
oui.
Raphaël.
Non mais c'est-à-dire que vous virez par exemple 10 000 euros en Allemagne, bah ça va vous coûter entre 200 et 400 euros pour virer cet argent. Et ça va prendre 2-3 jours. Vous le faites avec du Bitcoin, vous allez payer 1 ou 2 euros. Et ça prendra 10 minutes.
Mais je ne suis pas d'accord, il y a plein de transactions, notamment via les grandes plateformes centralisées de cette économie qui se prétend être décentralisée. Il y a des frais de transaction qui sont appliqués, qui sont très variables.
Non, mais encore une fois, les transactions ne passent pas par les exchanges. Les exchanges permettent d'acheter,
là,
de vendre des crypto-monnaies.
De transactions de pair à pair.
Attendez, vous êtes en train de perdre les gens. À nouveau, mais c'est bien ça aussi, toute la difficulté. Pardonnez-moi, c'est ça aussi toute la difficulté, effectivement, avec les crypto-monnaies, et avec cette idée quand même, y compris là, de ce que je vois passer sur WhatsApp et ailleurs, enfin cette idée qu'on n'est pas dans un outil spéculatif mais dans un outil quotidien en fait, comme si j'avais mon porte-monnaie, c'est un peu compliqué pour les gens qui nous écoutent, pour nous et pour tout ce qu'on entend aussi, et toute la manière dont ça a été y compris vendu par ceux qui en font la promotion. Je voudrais juste qu'on retourne au standard si ça vous ennuie pas, et puis évidemment vous pourrez à nouveau débattre. Charles est avec nous, bonsoir. Charles.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Alors, je vous appelle car j'avais une chose qui me passait par l'esprit, parce que ça fait des années qu'on nous répète que le Bitcoin est un actif particulièrement risqué. Sauf qu'avec le temps qui passe, notamment avec la dévaluation des différentes monnaies, et on se rend compte que le Bitcoin prend de plus en plus de valeur et qu'aujourd'hui des États s'y intéressent, souhaitent, en tout cas réfléchissent à constituer une réserve stratégique de Bitcoin, est-ce qu'à l'avenir le risque ne serait pas plus de ne pas avoir du Bitcoin, ne serait-ce qu'en petite quantité ?
Allez, l'un après l'autre, Nastassia Djadji d'abord.
Alors,
le risque, c'est de ne pas en avoir.
Effectivement, deux choses. Déjà, d'une part, attention aux effets d'annonce dans une économie dont le carburant est la promesse. Revenons à la campagne américaine de 2024. L'idée d'une réserve stratégique en Bitcoin aux États-Unis a été un des arguments massus du lobby. Cérémonie d'investiture, c'est déjà balayé. Trump n'a pas mentionné Bitcoin une fois. Il n'y a pas de réserve stratégique en Bitcoin. Et il dit de manière très hypothétique que si jamais il y a une réserve stratégique, ce sera plutôt dans des cryptos américaines. On ne peine pas. C'est pas difficile de comprendre pourquoi, au vu de la fluctuation du prix de cet actif, de se dire que avoir une réserve dont la valeur peut autant fluctuer, ça annule complètement l'idée de réserve stratégique. D'une part. Deuxièmement, il y a eu encore une annonce, article du Financial Times, aujourd'hui sur un des membres de la Banque Centrale Tchèque qui énonce l'hypothèse qu'il va parler de réserve stratégique. Moi, j'ai vu tous les gens de la crypto prendre ça pour acquis et en faire une idée comme si ça allait arriver. Mais j'avais de l'avis. Attention aux effets d'annonce, il va le proposer. On voit que dans la plupart des cas, c'est une idée qui n'est pas du tout acceptée. Et encore une fois, revenons à l'idée de réserve stratégique. Une réserve stratégique, elle a pour but d'assurer la pérennité des actifs. Or, encore une fois, avec des actifs volatiles, c'est tout à fait abscon. Et par ailleurs, juste une phrase quand même.
Allez-y.
Sur cette idée que les États-Unis pourraient constituer une réserve stratégique en Bitcoin en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que ce sont les citoyens américains qui payent leurs impôts à l'État fédéral, qui, en cas d'éclatement de cette bulle spéculative, ou pour lequel mon avis, c'est pas si, ce sera quand ça va arriver, puisqu'il y a toujours un point de rupture hein, dans les phénomènes pyramidaux, eh bien, ce seront à ce moment-là eux qui indirectement vont financer tout cela, puisque ce sera un actif stratégique de leur gouvernement. Donc déjà, c'est idéologiquement aux antipodes de l'idée de départ de cette industrie, et en plus de ça, c'est très dangereux sur le plan social, économique et politique.
Raphaël Bloch, sur cette phrase de notre auditeur, le risque c'est de ne pas en avoir, elle est pour vous, donc ouais. Profitez-en.
Oui, non, mais je pense qu'il a tout résumé. Encore une fois, moi ça fait maintenant 9 ans que je suis ces sujets, ça fait 9 ans que j'entends toujours la même chose, c'est volatile, c'est risqué. Dans 5 ans, on aura la même discussion et vous verrez que le Bitcoin aura encore progressé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il suffit simplement de travailler le sujet, de regarder ce qui se passe structurellement. C'est très simple, hein, l'économie c'est une histoire de déséquilibre. Vous avez aujourd'hui le principal déséquilibre sur la planète, ce sont les déficits publics. Vous avez deux manières de résoudre le problème des déficits publics. Soit vous baissez les dépenses, et je pense que là-dessus, plein d'États qui ne veulent pas le faire, et ça peut se comprendre, ou alors vous augmentez les impôts. Et là, c'est pareil, on sent qu'il y a des tensions à ce niveau-là. Et donc derrière, la troisième manière, finalement, et c'est l'option qui s'impose pour gérer ces déficits publics, c'est de diminuer tendanciellement la valeur de la monnaie. Et c'est exactement ce que l'on observe dans tous les pays du monde, sauf justement, parce qu'à un moment donné, c'est en face d'une monnaie...
Dans tous les pays du monde ?
Oui, dans tous les pays du monde, vous avez la valeur de la monnaie qui diminue. Tous les pays du monde, justement par rapport au dollar, qui est en fait la monnaie dominante. Voilà. Ah oui, non mais. Et donc, c'est pour ça que vous avez justement de plus en plus de gens, et les États vont s'y mettre. Vous verrez, vous pourrez me réinviter dans 2 ans. Aujourd'hui, vous avez le Salvador qui travaille déjà sur ce sujet, et d'autres États vont...
Raphaël, ils ont abandonné le projet Bitcoin parce qu'ils ont pris un prêt auprès du FMI.
Non.
C'est le pays dans lequel...
Non, ils n'ont pas abandonné. Non.
C'est un produit d'appel, les citoyens ne s'en servent pas.
Attendez, là-dessus, en effet, les citoyens... Et on revient à l'outil spéculatif. Au Salvador, les citoyens, on est d'accord là-dessus. Raphaël Bloch, les citoyens ne s'en servent pas.
Alors, les citoyens ne s'en servent pas. Ça a été imposé et effectivement, à partir du moment où vous l'imposez, ça ne peut pas marcher. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas les infrastructures. C'est-à-dire que vous aviez des gens qui se retrouvaient avec
ils ont dépensé des millions d'argent public.
On est d'accord, pour construire
un wallet, un porte-monnaie électronique pour les Salvadoriens. Il y avait une incitation, donc ils ont mis 30 dollars sur le fameux porte-monnaie. Les gens ont pris les 30 dollars, l'ont laissé en dormance, utilisent du dollar américain, notamment pour les transferts internationaux. Ce dont vous disiez que Bitcoin pourrait servir et les cryptos allaient fluidifier au Salvador, les transferts internationaux se font en dollars, point barre.
Mais il y a un contrôle d'échange. Là, on parle du cash, mais je veux dire à l'extérieur, quand vous devez faire passer de l'argent et que vous n'avez pas de cash, vous ne pouvez pas le faire. Mais ce que j'ai à part là, c'est que, évidemment, et là-dessus, moi, je ne soutiens absolument pas le fait qu'on impose à la population. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de regarder ce qui se passe dans des pays où c'est les gens qui eux-mêmes s'en emparent. Encore une fois, je parle de la Thaïlande, je parle de l'Argentine, rien n'est imposé d'en haut. Les gens s'en servent parce que leur monnaie ne vaut plus rien, qu'ils n'ont pas accès à des banques. Il faut quand même avoir une chose en tête.
J'ai envie de vous demander qui s'en sert, en fait, ces populations-là.
Mais les Thaïlandais, les Argentins,
quand je dis qui, à l'intérieur du pays, encore une fois.
L'Argentine, c'est 25% de la population. Voilà. Donc vous avez des commerçants, mais après, c'est toutes conditions sociales. Enfin, je veux dire, y a là-dessus. Et encore une fois, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand vous avez des monnaies faibles, vous n'avez pas de système financier. Parce que aucune banque ne peut prêter dans une monnaie qui est faible. C'est le cas de l'Argentine, c'est le cas de plein de pays. Donc en fait, les gens n'ont pas accès au système financier. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire des prêts, ils ne peuvent pas protéger leur argent. Et c'est pour ça qu'à la fin, ils se tournent vers les crypto-monnaies.
Certains n'en ont pas. Et je voudrais juste m'arrêter un instant pour répondre à qui s'en sert sur quand même la barrière technologique et technique pour utiliser ces outils. Vous avez raison de le souligner. Parfois, ce sont des pays très pauvres où il n'y a pas des infrastructures adaptées. On parle quand même d'outils électroniques qui nécessitent une certaine connaissance des outils. Vous devez maîtriser une phrase de passe qui est très longue. Si vous la perdez...
Une phrase de passe, alerte, je ne sais pas ce que c'est.
Une phrase de passe, c'est au lieu d'un mot de passe. En fait, c'est vraiment un très très long mot de passe que vous devez mémoriser. Voilà, c'est pas un 2, 3, 4, 5, ni ABCDE. Et si vous perdez cette clé, qui est la clé d'entrée à votre porte-monnaie, c'est irréversible. Vous perdez les fonds. De la même manière, si vous voulez envoyer...
Une histoire célèbre avec un Allemand qui en a pris il y a très longtemps, qui a perdu la clé, c'est fini.
Mais moi-même, je l'ai perdu.
Écoutez.
On m'a envoyé des fractions de Bitcoin quand je travaillais sur mon livre. J'ai perdu, comme une grosse nulle, j'ai perdu ma seed phrase.
Après, il y a aussi des solutions alternatives.
Donnez les solutions à
C'est irréversible,
à
donc vous perdez votre capital.
Mais si effectivement vous n'avez que ce système, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes où quand vous perdez effectivement la clé, derrière, c'est perdu. Mais encore une fois, il y a des sociétés qui développent des choses, vous pouvez récupérer votre mot de passe.
Il nous reste seulement 2 minutes. Ouais. Voici Robin, et il est pour vous, Raphaël Bloch. Bonsoir Robin.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Moi, je voulais vous partager mon expérience parce que c'est vrai que, alors, vos invités, ils étaient quand même, enfin, un de vos invités est très critique envers le Bitcoin.
Bah oui, mais l'autre moins, c'est un peu le principe. Mais on vous écoute, ouais.
C'est vrai que, voilà. Moi, mon expérience, ça fait 8 ans quasiment que j'utilise le Bitcoin. Pour vous donner un exemple, pendant plus de 2 hivers, j'ai chauffé ma maison grâce au minage des Bitcoins.
Mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
Faire tourner en des gros, ordinateurs qui utilisent beaucoup, beaucoup d'électricité et qui génèrent du coup une énergie que monsieur visiblement voilà, a très astucieusement utilisée.
C'est pour ça que je voulais vous appeler, c'était pour être un peu critique, parce qu'apparemment tout est mal. Et moi, c'était ce que je voulais vous dire. Mon expérience, c'est que j'ai réussi à chauffer ma maison. Donc, j'ai consommé de l'électricité pour chauffer ma maison. Et en même temps, eh ben, j'ai gagné des bitcoins que j'ai pu revendre très facilement. En récupérant des euros. Donc je trouvais que c'était une chose qui était assez facile.
Et du coup, combien, Robin, comment ça s'est passé pour vous? Combien, quand vous dites en récupérant des euros, vous êtes à quel, dans quelle marge, en fait?
Par exemple, les ordinateurs qui calculaient et qui créaient de la chaleur, j'ai miné un demi-bitcoin, donc vous voyez la valeur que ça peut valoir aujourd'hui.
Merci beaucoup, Robin. Mais voyez, non seulement je le crois sur parole, mais tout le monde n'est pas négatif, mais pardon, mais Madame Majpro qui nous entend et à qui on va expliquer qu'elle va miner des bitcoins dans sa cuisine, excusez-moi, mais à qui on parle, quoi, quand même?
Oui, oui, mais attendez, là-dessus, on parle d'une industrie qui a une dizaine d'années.
16. Pardon.
Oui, bah, une dizaine, entre 10 et 16, voilà.
Mais vous n'êtes plus des bébés, enfin,
Mais d'accord, mais encore une fois, les choses se développent. Vous avez aujourd'hui donc 3-4 millions de détenteurs en France. À l'échelle mondiale, on estime entre 200 et 300 millions. Il y a un taux d'adoption qui est supérieur à celui d'Internet.
Moi, j'ai l'impression surtout qu'il y a, pour l'instant, ça nous en sommes, et peut-être que ça vous mettra d'accord, des utilisateurs de Bitcoin qui sont tous très différents. Enfin, je veux dire, Robin se chauffe et mine du Bitcoin, pardon, mais des gens qui peuvent auto-miner leur propre Bitcoin à l'intérieur de la maison n'ont pas à en avoir beaucoup. Il y a des gens... Oui, enfin, écoutez, excusez-moi, Raphaël, mais enfin, quand même, n'exagérons rien, c'est pas comme si c'était une majorité non plus.
Mais non, mais...
Attendez, on a aussi des gens qui jouent à l'euro million, en fait, on a eu un auditeur qui faisait ça. On a aussi des gens, effectivement, là, pour le coup, qui investissent. Donc, en fait, au fond, la question, et ce sera la conclusion, pour l'instant, c'est chacun midi à sa porte, en fait. Est-ce que c'est ça que ça veut dire aujourd'hui?
Ouais.
Chacun midi à sa porte.
Bah, j'ai commencé par vous dire qu'effectivement, il y avait des profils très divers. Vous allez avoir des gens qui viennent uniquement pour spéculer, d'autres qui ont pris le temps un peu de comprendre ce qui se passe et donc vont aller jusqu'au minage pour se chauffer. Bah. Et puis, vous avez d'autres personnes qui vont juste se dire, effectivement, sur les 15 dernières années, l'euro a perdu de la valeur, et bah, je vais plutôt le mettre dans une monnaie qui n'en perd pas.
Allez, à suivre, ça fait beaucoup réagir nos auditeurs, dans les deux sens. D'ailleurs, je vous remercie tous les deux. Merci à tous pour vos nombreux appels. Merci. À tout de suite.